L'actualité des Alpes du Sud, à la une de l'actu justement, les Hautes-Alpes vont-elles aller vers un confinement?
Le ton du gouvernement s'est durci hier, lui qui voulait éviter tout confinement décide de mettre sous cloche plusieurs territoires de France où la situation sanitaire se dégrade, comme chez nos voisins des Alpes-Maritimes. Dans les Hautes-Alpes, les chiffres se noircissent avec un taux de contamination en particulier chez les 65 ans et plus qui augmente.
Fusionner l'hôpital de Riez avec les maisons de retraite de Puymoisson et Valensole, pour eux, il en est hors de question.
L'agence régionale de santé avance qu'il ne s'agit que d'une discussion bien suffisante pour la CGT Santé des Alpes-de-Haute-Provence qui lève le chiffon rouge et appelle à la mobilisation ce samedi à Fort-Calquier.
Les actes homophobes trouveront une réponse pénale accrue dans les Hautes-Alpes.
Première réussite pour l'antenne alpine de SOS Homophobie qui noue un partenariat avec le parquet de Gap. Le procureur Florent Crouilly explique dans ce journal qu'il s'agit de mieux accompagner la victime et d'accentuer le suivi des enquêtes.
Et puis voilà, plusieurs mois qu'il attendait enfin de monter sur le ring.
Le boxeur manosquin Karim Guerfi voit enfin le bout du tunnel, un tunnel sous la Manche, puisqu'il défendra ce soir son titre de champion d'Europe des poids coqs face à Lee McGregor en Grande-Bretagne, un combat plusieurs fois reporté. Météo très froide.
Oui, le temps qui reste gris et froid le matin avec un peu de neige sur le nord des Hautes-Alpes et sur l'Ubaye. L'après-midi, le temps est plus sec et on peut espérer quelques éclaircies côté température. C'est pas bien chaud, 3 à Briançon. Il fera 7 à Embrun, 10 à Tallard et compter entre 6 et 11 degrés sur les Alpes de Haute-Provence. Le ton a été donné hier dans la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement qui a écarté depuis plusieurs semaines l'idée d'un confinement rétropédale.
Face à des chiffres alarmants, c'est donc un confinement un peu plus souple qui s'applique 7 jours sur 7 en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime et chez nos voisins des Alpes-Maritimes. Et ce pour 4 semaines au moins. Décision décriée par le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui estime tout cela comme violent. J'ai le sentiment qu'on n'a rien appris de cette année de pandémie. Alors le ton est donné, vous l'avez dit, car en cas de dégradation plus générale des chiffres de contamination, le gouvernement n'hésitera pas à mettre sous cloche d'autres territoires. Et dans les Hautes-Alpes, déjà placées sous surveillance, la tendance n'est guère encourageante. Impact des vacances de février ou non, en tout cas, la préfecture constate une augmentation du taux de positivité passant de 8,1% à 8,4% pour la semaine dernière. Idem pour le taux de contamination de 257 pour 100 000 habitants contre 241 quelques jours auparavant. Ce qui inquiète surtout, c'est que ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans qui semblent en première ligne. Quant au variant anglais, il représente désormais 75% des tests positifs, 10% pour les autres variants. 141 personnes étaient hospitalisées il y a 4 jours, dont 9 en réanimation. Le Covid qui a fait 318 victimes dans les Hautes-Alpes. En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit avec 18 260 72 doses injectées, dont plus de 5600 en seconde prescription.
Et l'état d'urgence sanitaire qui court dans l'Hexagone jusqu'au 1er juin prochain suscite la colère de collectifs et syndicats.
Ils appellent d'ailleurs à la mobilisation demain à Fort-Calquier pour une marche pour les libertés. Ce sera à 14h30, place du Bourguet. Dans les revendications, on trouve aussi le retrait de la loi sur la sécurité globale ou contre le séparatisme. La situation des hôpitaux du département est aussi pointée du doigt, notamment le projet de fusion entre l'hôpital de Riez et les EHPAD de Puymoisson et Valensole. Nouvelle attaque contre la santé selon la CGT des Alpes-de-Haute-Provence. Le 10 mars dernier, un courrier a été envoyé à l'Agence régionale de santé par une quinzaine d'associations citoyennes, politiques et syndicales pour dire non à ce projet de fusion, car on craint une mise à mort par la suppression de lits, comme explique Cédric Vollet. Je vous propose d'écouter le représentant de la CGT Santé Action Sociale 04.
On a eu longuement au téléphone à l'ARS ces derniers jours. Ils nous ont dit non, c'est pas un projet de fusion, c'est une réflexion. Alors nous, on a répondu, donc pour une réflexion, ça a l'air quand même très avancé, puisqu'on a une dizaine de personnes, soit des personnes qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital, soit des élus locaux qui nous donnent des modalités très précises et un calendrier très précis. Nous, on a étudié une quinzaine de projets de fusion depuis environ 2 ans et demi, 3 ans. Et dans chaque projet qu'on a étudié et qui a été mis en œuvre, donc avec 2 ans, 3 ans, 4 ans de recul, à chaque fois, c'est les mêmes conséquences, c'est qu'il y a une fusion. C'est-à-dire il y a des fermetures de services, il y a des fermetures de lits, il y a des suppressions d'emplois et il y a une dégradation des conditions de travail. C'est vraiment les quatre conséquences.
Un week-end de mobilisation aussi dans les Hautes-Alpes, plus précisément au col de Montgenèvre, avec une maraude symbolique. Là, c'est la Confédération paysanne et solidaire qui en sont à l'initiative. Ils demandent de faire preuve de solidarité humanitaire vis-à-vis des exilés qui passent la frontière, souvent issus, selon eux, du monde du travail, du monde rural et qui ont été contraints de quitter leur pays pour des raisons économiques et écologiques.
En bref, le feu de Digne-les-Bains est maîtrisé et éteint.
Il aura tout de même fallu l'intervention de 39 pompiers hier dès 13h30 pour cet incendie de broussailles au niveau des thermes, un sinistre dont l'accès était difficile. Deux groupes feux de forêt ainsi qu'un commando se sont rendus sur place. 3 hectares étaient partis en fumée hier après-midi. Notez qu'aucune habitation n'était menacée.
Le parquet de Gap amplifie sa réponse face aux actes homophobes.
Alors qu'une antenne SOS homophobie a vu le jour en fin d'année dernière dans les Alpes du Sud, le procureur Florent Crouy a rencontré en début de semaine ses deux référents. Un partenariat a été acté pour améliorer la prévention et le traitement judiciaire des actes LGBTI-phobes. Florent Crouy.
Est-ce que parce qu'on est dans un département assez reculé, plutôt rural, les faits, les atteintes homophobes n'existent pas ou existent moins? Alors je considère qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'existent moins qu'ailleurs, sauf que les structures qui existaient n'étaient pas encore peut-être satisfaisantes pour permettre de les révéler. Parce que la personne qui est victime d'actes homophobes, forcément, elle n'a pas toujours tendance à vouloir exposer sa vie privée publiquement et auprès d'enquêteurs, et elle a tendance à vouloir garder ses informations. Donc l'idée du partenariat, c'est de dire, vous, qui êtes une association habilitée au contact de ces personnes, lorsqu'elles seront victimes d'atteintes, de les signaler en direct au procureur de la République pour qu'une réponse personnalisée, à la fois dans l'accueil de la victime auprès d'un commissaire ou d'une gendarmerie, soit réalisée, et qu'il y ait un suivi des enquêtes lorsqu'elles seront diligentées sous mon autorité.
Un entretien retrouvé dans son intégralité sur alpe1.com puisque le procureur Florent Crouy était l'invité du 8-30 ce jeudi. On reste dans le volet justice. En bref, c'est sans surprise que les jeunes agriculteurs et la FDSEA soutiennent l'appel de Jean-Marie Bernard. Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a été condamné la semaine dernière à une amende délictuelle pour avoir offert une queue de loup à l'ancienne préfète lors de son départ. C'était en février 2020. On rappelle que le canidé est une espèce strictement protégée par la convention de Berne. Pour les syndicats agricole, la peine est disproportionnée, injustifiée, prise sous le joug de la pression environnementaliste, disent-ils. Notez que selon nos informations, Jean-Marie Bernard n'avait toujours pas déposé son appel ce jeudi.
C'est une bonne nouvelle teintée de gris sur la ligne des Alpes. Les travaux ont commencé cette semaine, des travaux très attendus, mais désormais pour relier Briançon à Paris, le train de nuit se transforme en bus.
Une substitution qui ne convient pas à la députée des Hautes-Alpes, Pascale Boyer, qui revient à la charge sous la forme d'un courrier. Ce dernier a été envoyé au gouvernement. Elle y déplore le défaut d'information de la SNCF quant à cette substitution et insiste sur le fait que le bus n'est pas un moyen de transport adapté. La députée s'inquiète également pour la saison estivale, alors qu'aucune ligne ferroviaire ne permettra de rejoindre les Hautes-Alpes puisque des travaux seront engagés entre Marseille et Briançon. Elle propose ainsi de faire transiter le train de nuit par le sud.
La transition énergétique au cœur des enjeux politiques et sociétaux. Deux conventions ont été signées mercredi par la ville de Digne-les-Bains et Provence-Alpes-Agglomération avec Enedis.
La première est en faveur de la transition écologique cœur de ville. La seconde dans le cadre du plan climatique Air Énergie. Selon Sébastien Matron, directeur Enedis Alpes du Sud, ces deux conventions vont permettre de construire l'avenir dans le cadre de la transition écologique.
Nous allons pouvoir accompagner la collectivité dans la réalisation de ces projets. En phase finale, comme on a l'habitude de le faire, par exemple sur du raccordement, mais aussi plus en amont, avec des aides à la décision, que ce soit concernant l'urbanisation, mais aussi la prise de décision relative à tout ce qui consomme de l'énergie, que ce soit en vue de maîtriser la consommation ou au contraire de faire de la rénovation énergétique. Donc nous avons de la mise à disposition de données, de l'expertise à apporter à la collectivité pour qu'elle puisse faire les meilleurs choix de transition énergétique sur à la fois la maîtrise de ses consommations sur les bâtiments publics, sur l'éclairage public, mais aussi dans l'évolution de ses usages, par exemple avec l'autoconsommation individuelle ou collective.
Sébastien Matron, micro alpin de Michel Bonnefoy. Restons dans le volet environnemental avec Embrun qui fait la chasse aux mégots, aux déjections canines et aux détritus. 3 campagnes de communication viennent d'être lancées. Un ramassage de mégots aura lieu le 27 mars prochain de 9h30 à 12h avec des gants en latex et des sacs qui seront mis à disposition des participants. Sachez qu'un mégot pollue 500 litres d'eau par ses composants chimiques. Embrun a installé 15 cendriers réalisés par des artisans locaux.
Et puis c'est un peu leur jour de consécration aux élèves de la classe Mémoire et Avenir du collège de l'Argentière l'ABC.
Leur classe porte bien son nom puisqu'ils ont réalisé un film sur l'histoire du monument aux morts de la commune. Il sera projeté ce vendredi à 16h au foyer culturel. Une cérémonie en présence de la sous-préfète Hélène Nestarquise, Claire Boucher, la députée, Marie-Noëlle Disdier, conseillère départementale et le maire Patrick Vigne. La médaille du Sénat leur sera remise. Notez que ces élèves ont été récompensés par le Souvenir français pour cette réalisation. Ils pourront d'ailleurs, en avril prochain, découvrir le Panthéon, l'Assemblée nationale et le Musée des Invalides.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Ça y est, sa préparation n'aura pas été vaine. Karim Guerfi va enfin monter sur un ring et ce sera pour ce soir.
Enfin pour le boxeur manosquin qui a été bien chahuté, il faut le dire, par la crise sanitaire. Il défendra son titre de champion d'Europe et compte bien réussir à faire un Brexit face à Lee McGregor. Mais Christophe Lourenceau, le week-end, sera aussi OK avec des rapaces de Gap qui lorgnent de près la troisième marche du podium en Ligue Magnus. Parlons boxe d'abord.
On a cru que ce combat n'allait jamais avoir lieu. Après trois reports successifs, Karim Guerfi va enfin pouvoir défendre sa ceinture de champion d'Europe des poids coqs ce vendredi à Bolton en Angleterre face à son challenger écossais Lee McGregor. Un combat aux 1000 rebondissements qui a mis à rude épreuve les nerfs du manosquin entre le cas positif à la Covid-19 de son adversaire, le reconfinement de la Grande-Bretagne et les restrictions de voyage. Le guépard a connu la pire préparation possible, mais la combativité qui le caractérise le permet d'être aujourd'hui fin prêt pour ce nouveau duel qui, en cas de victoire, doit lui ouvrir les portes d'une opportunité au titre mondial. Verdict sur le ring à partir de 20h. Objectif podium pour les rapaces de Gap, alors que les Dragons de Rouen ont été sacrés champions de France la semaine dernière malgré leur défaite face à la formation Alpine. Les hommes d'Éric Blay ont de quoi nourrir de belles ambitions pour cette fin de championnat. Actuellement 5e, les rapaces ne sont qu'à 2 petits points des brûleurs de loups de Grenoble qui occupent le 3e strapontin du podium de la Ligue Magnus. Avec 4 victoires de Rouen au compteur, les Gapensés veulent poursuivre cette belle série ce vendredi à l'occasion du déplacement sur la glace de l'Ormadie-Anglette, avant-dernier du championnat et juste devant les Diables Rouges de Briançon. Les Rouges et Blancs sont dans une dynamique totalement à l'opposé de leurs voisins gapensés avec 4 défaites et le déplacement sur la patinoire des récents champions rouennais n'inspire pas à l'optimisme. Coup d'envoi ce samedi à 18h. Direction Vézona en Suisse pour la dernière étape de Coupe du Monde de la saison, aussi bien en snowboard cross qu'en ski cross. Après des mondiaux réussis à Idrefjäll en Suède, Alexia Kerel a confirmé sa montée en puissance en se qualifiant pour les 3 phases finales de Coupe du Monde qui ont suivi. 19e au classement général, c'est une belle fin de saison pour la snowboardeuse de Serge Chevalier qui a tout juste 21 ans et gagne progressivement ses galons au sein de l'équipe de France pour l'hiver prochain. En ski cross, Alizé Baron conclut ce dimanche une magnifique saison après une année sans compétition à cause d'une vilaine blessure au dos. Il reste donc une course à la Champs-sur-Rhône pour préserver sa place sur le podium de la Coupe du Monde et qui sait revenir sur la Canadienne Marielle Thompson, 2e à 40 points de la Haut Alpine. Le podium, c'est à son pied que Terence Chikhnavorian a terminé la semaine dernière à Sunny Valley en Russie. Un résultat mêlant déception et satisfaction pour le skieur du Sauce qui a été handicapé tout au long de l'année avec des douleurs au tibia. Cette dernière course helvétique est la parfaite occasion pour le bas alpin de terminer l'hiver sur une bonne dynamique avant une saison 2022 qu'il espère sans souci physique.
Merci Christophe. Notez, pour être totalement complet, la participation des 2 snowboarders de Risoul, Lucille Lefebvre et Sébastien Königsnenberg aux qualifications des championnats du monde de snowboard slopestyle ce vendredi soir à Aspen aux États-Unis.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.